Donc nous avons abordé hier la notion de liberté et aujourd'hui je voudrais aborder la notion de responsabilité. Et ces notions évidemment sont extrêmement complexes, extrêmement vastes. Et on peut passer de l'une à l'autre, on peut évoquer ces différentes notions et je me rends compte de beaucoup de manières différentes. Un petit peu comme si on traversait une ville, pas une ville américaine où il y a des avenues, on va tout droit, mais une ville européenne où on passerait par des quartiers, par des petites rues, et qu'il y a mille manières, dans le fond, d'explorer ceci en visitant, en passant, des quartiers qui sont extrêmement intéressants. Donc là, j'ai dû choisir une sorte d'itinéraire, en me rendant compte aussi que je devais laisser certains quartiers de côté parce qu'on ne peut pas toucher tous les aspects. Donc la notion de responsabilité, on pourrait dire que elle est reliée au fait d'être ou de reconnaître qu'on est l'auteur de ses actions. Mais non seulement de ses actions, mais aussi l'auteur des conséquences de ses actions. Parce qu'autrement, on arrive à des situations absurdes. Je lance une cigarette allumée dans une forêt du sud de la France. Je suis responsable d'avoir mis la cigarette par terre, mais pas d'avoir brûlé la forêt. Donc il s'agit aussi de prendre en considération le fait d'être auteur des conséquences. Autrement, on irait dans la position absurde. Je suis responsable d'avoir appuyé sur la gâchette, mais pas d'avoir tué la personne. Ça, c'est la balle qui l'a fait. Donc cet espace de prendre aussi conscience des responsabilités et être aussi l'auteur des conséquences de ses actions. Maintenant, comme nous allons le voir, là, il n'y a pas de responsabilité sans liberté, mais que d'une certaine manière, la responsabilité, c'est aussi ce qui permet d'atteindre la liberté. C'est le chemin même qui permet d'accéder à la liberté, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de ces réflexions. On pourrait dire qu'il y a une responsabilité par rapport au choix de ses actions, ce qui va ouvrir aux notions de compassion, par exemple, ou de bienveillance, ce qui fait que je choisis librement le cours de mes actions, mais il y a aussi un autre aspect de la responsabilité, je voudrais évoquer les deux aujourd'hui, c'est d'assumer son destin. Ou bien je me place en victime, ou bien je suis responsable de mon destin. Et c'est là que cette responsabilité face à son destin va ouvrir la porte de la liberté. Et tant que nous nous considérons comme victimes de notre destin, à ce moment-là, nous sommes complètement enfermés puisqu'une victime n'a aucun pouvoir, le pouvoir étant dans le bourreau et non pas dans la victime. D'une certaine manière, le terme responsabilité ne semble pas apparaître beaucoup dans les réflexions religieuses. On pourrait se demander pourquoi on parle de beaucoup de vertus, mais pas tellement de responsabilité. On verra que d'une certaine manière, le bouddhisme a cette notion dès l'origine, non pas le mot, je ne sais pas comment on dirait responsabilité en pali ou même en tibétain d'ailleurs, mais on a une orientation dès le départ qui semble en tout cas indiquer cette responsabilité. Mais d'une manière générale, on ne parle pas tellement de responsabilité, on parle de compassion, de bienveillance. Or, nous nous rendons compte à l'heure actuelle que certains domaines, ou dans certains domaines, les notions de compassion et de bienveillance sont inopérantes. Dans la notion d'écologie, il est difficile de faire appel à la compassion ou à la bienveillance sans tomber dans une sorte d'anthropomorphisme assez bizarre. Et si on veut faire de la terre, Gaïa, une sorte d'être vivant, mais là, on perd un peu le sens de la réelle subjectivité. Quelquefois, je regarde les dessins animés avec mes neveux et nièces, et c'est extraordinaire de voir ces dessins animés où tous les objets familiers parlent, s'amusent entre eux, la brosse à dents qui va dire bonjour à la tasse, etc., qui semblent les amuser grandement, mais il y a quand même un côté un peu inquiétant parce qu'on perd la notion de ce qu'est une vraie subjectivité. tout d'un coup tout existe au même niveau, et si tout est aussi subjectif, rien ne l'est réellement. Donc cette notion de responsabilité est différente que la notion de compassion et bienveillance. Elle agit dans des domaines différents. Il me semble que dans bien des situations, c'est cette notion-là qui est en jeu, et non pas la notion de bienveillance et de compassion. Donc revenons à la notion de responsabilité et montrer qu'elle nécessite une certaine liberté, que sans liberté, il n'y a pas de responsabilité. Une machine n'est pas responsable, elle ne peut pas changer son cours de route, même si elle crée des dommages. De la même manière, un enfant et un esclave ne sont pas responsables, ils sont obéissants, dans la mesure où ils n'ont pas la liberté. On pourrait reconnaître une responsabilité limitée dans des conditions particulières où les personnes ne sont pas réellement elles-mêmes. Une personne qui a des déficiences mentales, une personne sous l'emprise des passions, une personne sous l'emprise de l'alcool. Je ne connais pas les notions juridiques, mais il y a peut-être ici des sortes de parenthèses. On reconnaît une responsabilité limitée parce que la personne, elle n'est pas totalement libre. Donc ceci est senti spontanément, ce rapport de liberté au rapport de responsabilité. Mais ceci soulève évidemment une question importante. Si dans le bouddhisme on dit qu'il n'y a pas de moi, et on le dit, que le moi n'existe pas réellement, quelle que soit la manière sophistiquée dont on voudrait exprimer ceci, alors qui est responsable? Et ce n'est pas un problème tellement simple. Qui est responsable s'il n'y a pas de moi? Dans un texte, il est mentionné trois sources de la notion du moi. La première est l'orgueil. La deuxième source est la confusion, et la troisième est la convention. Donc il est dit qu'il s'agit de se débarrasser des deux premières, de l'orgueil et de la confusion, mais évidemment pas de la dernière, pas de la convention. Et c'est intéressant de voir que Jacques Lacan parlait aussi de différentes notions du moi, une qui est imaginaire, comme on pourrait dire celle qui dépend de l'orgueil et de la confusion, et une qui est symbolique, celle qui dépend du langage, et qui correspond exactement à la notion de convention. Il s'agit de ne pas faire la confusion entre le moi, qui est cette entité qui semble avoir une existence très spécifique, qu'on éprouve en soi-même, dû à la confusion ou à l'orgueil, et la personne, se composer de différents éléments qui sont corporels et mentaux, qui créent une personne. Et cette personne est responsable de ses actions. Et dans la tradition bouddhique, pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qui va devoir faire l'épreuve des conséquences des actions, donc qui va en assumer la responsabilité, on dit c'est le courant de conscience. Non pas un courant de conscience qui serait chosifié, solidifié par la notion du moi, mais qui reste purement conscience, purement subjective. Sans cette personnification, cette chosification qui est faite par la notion du moi ou du je, les images qu'on rattacherait, les caractéristiques qu'on rattacherait à cette notion-là. Il y a une histoire grecque intéressante pour marquer cette fluctuation. C'est toujours intéressant de voir que c'est des questions qui se sont posées de tout temps. Et cette histoire amusante met en jeu deux marchands. Le premier a prêté une certaine somme au deuxième marchand. Et après quelques temps, il va vers le marchand à qui il a prêté une somme d'argent et il lui demande de lui rendre cette somme. Alors le deuxième marchand dit « Je suis désolé, mais ce n'est pas à moi que tu as prêté de l'argent, hein, parce qu'on n'est plus les mêmes, et ce n'est pas toi qui m'as prêté l'argent, et ce n'est pas moi qui t'en ai emprunté, parce que tout a changé, on n'est plus les mêmes. » Voilà, donc il avait compris la théorie, tout change à chaque instant, pas d'identité. Alors évidemment, le premier marchand est assez ennuyé. Alors le lendemain, il revient avec un grand bâton et puis il tape le marchand qui avait emprunté l'argent. Alors l'autre, il l'arrête, il dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me tapes ?» Il dit « Mais c'est pas moi qui t'ai battu, et c'est pas toi qui as reçu les coups. » Voilà, donc pour exprimer cette ambiguïté, si on pense que tout change et qu'il n'y a pas de préservation d'identité dans la temporalité. Donc on voit bien à quelle absurdité ceci conduirait. Il y a donc quand même le problème de la responsabilité, et qui est tenu responsable, et dans quelle mesure il y a ce lien entre liberté et responsabilité. Comme on l'a mentionné, un enfant n'est pas responsable, il est obéissant, s'il agit évidemment sous les ordres de quelqu'un, de la même manière qu'un esclave. Donc ce n'est pas un problème qu'on rencontre nécessairement nous-mêmes dans notre vie, mais c'est encore les problèmes évidemment qui ont eu cours dans l'Antiquité et qui à l'heure actuelle encore se rencontrent dans certains endroits. Donc Hannah Arendt a beaucoup réfléchi sur ces problèmes-là, notamment Hannah Arendt, donc cette grande penseuse allemande qui était juive et qui a quitté l'Allemagne en 1933, mais qui s'est beaucoup posé de questions sur le nazisme, mais dans le fond comment les gens en sont venus à agir de manière aussi atroce, en essayant d'y voir clair et en se demandant où était la responsabilité, quelle responsabilité avaient les différentes personnes, avec des réflexions qui sont extrêmement intéressantes et questionnantes aussi. Et pour elle, la difficulté, le problème n'était pas tellement les fanatiques monstrueux qui voulaient détruire les autres, notamment le peuple juif, parce que d'une certaine manière, ils agissaient en accord avec leur folie, avec leur passion. Ce qui la questionnait surtout, c'était tous les autres, qui semblent avoir, eux, agi sans qu'ils soient motivés par cette haine. Et ça, elle le trouvait extrêmement troublant. Donc à nouveau, ici, on va se poser la question de la responsabilité d'une personne qui est dans un système et qui obéit. Ici, on ne parle pas d'enfant, on ne parle pas d'esclave, mais d'une personne adulte qui obéit dans un système. Alors je vous lis quelques réflexions qu'elle fait, parce qu'elles sont exprimées avec beaucoup de précision. Elle dit « Cependant, si nous pouvons quand même tenir ces criminels nouveaux, qui n'ont jamais commis un crime de leur initiative, pour responsables de ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'il n'y a rien de semblable à l'obéissance en matière politique et morale. » Donc pour elle, on ne peut pas parler d'obéissance en politique et en morale. Le seul domaine dans lequel ce mot peut s'appliquer à des adultes qui ne sont pas des esclaves est celui de la religion, où les gens disent qu'ils obéissent à la parole ou au commandement de Dieu parce que la relation entre Dieu et l'homme peut à juste titre être considérée dans les termes semblables à celle entre l'adulte et l'enfant. Ici, il serait fou de croire qu'elle réduit la religion à quelque chose de complètement naïf. Ça, elle a fait sa thèse sur l'amour chez saint Augustin, donc elle a étudié la question dans toute sa profondeur, mais ce qu'elle veut marquer surtout, c'est qu'en politique et en morale, l'obéissance à un système n'est jamais une excuse. Et que pour ces gens, elle fait une remarque qui semble assez intéressante. Elle dit que dans le fond, ce ne sont pas les révolutionnaires, les penseurs anarchiques, on pourrait dire, sans vouloir ramener ceci à cela, mais les penseurs dans la ligne de Nietzsche qui questionnaient beaucoup l'ordre établi, la morale établie, tous ces gens-là. Elle dit, ce ne sont pas eux qui ont collaboré, mais c'est les gens bien pensants qui ont, avec la plus grande simplicité, changé de modèle. Et c'est ça qui l'inquiète. Elle marquera bien, c'est parce qu'il y a une absence de responsabilité de penser par soi-même qui fait que ces gens bien pensants qui prenaient les pensées communes ont pu le plus facilement prendre les nouvelles valeurs, aussi absurdes et atroces soient-elles, avec une certaine simplicité. Donc les gens qui étaient rebelles aux valeurs morales de l'Allemagne en 1930, ce n'est pas eux qui ont accepté ces valeurs atroces du nazisme, parce qu'eux avaient toujours réfléchi sur les valeurs, les questionner. C'est les gens qui acceptent les valeurs sans les questionner, alors ils peuvent changer de valeur. Parce qu'évidemment, dans la religion, d'une manière générale, à nouveau, il ne s'agit pas ici de faire le procédé religion, ce n'est pas du tout le cas, c'est de montrer des tendances et des dangers sans prétendre ramener les religions à ceci. Mais il est vrai que dans la religion ou les religions, ce qui est surtout important, c'est la fidélité. Fidélité au système, la foi, non ? dans le christianisme, par exemple, pour un chrétien, et qu'une personne qui agit en conformité, une personne qui agit selon les lois, qui obéit aux commandements. Vous voyez cette notion d'obéir, les règles sont données, les valeurs sont données, et il s'agit pour l'adepte, le dévot, de se conformer à ces règles. Ça veut dire que l'adepte, le dévot, le croyant, la croyante, n'a pas besoin de réfléchir sur les valeurs puisqu'elles sont données. Donc il s'agit d'obéir à ces valeurs. Donc le sentiment ici est un sentiment d'obéissance et non pas de responsabilité dans le sens où il faudrait choisir à chaque fois. Je reprends quelques lignes d'Anna Arendt, elle dit « Un adulte consent là où l'enfant obéit ». Si on dit qu'un adulte obéit, en réalité, il soutient l'organisation, l'autorité ou la loi à laquelle il prétend obéir. Et ça, c'est un argument qu'elle a constamment évoqué. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on obéit à un système quand on est adulte, mais ça veut dire que son acquiescement est le fait de soutenir. On soutient un système en prétendant lui obéir. Elle dit « Ce sophisme est d'autant plus pernicieux qu'il est très traditionnel. » Confond ceci, que dans le fond moral, il y a toujours un choix possible. Et que l'obéissance à l'administration ou dans l'armée au supérieur n'est moralement pas recevable. Mais elle continue, je donne encore un petit peu de réflexion de Hannah Arendt parce qu'il semble qu'elle soulève beaucoup de problèmes. Elle dit aussi, moralement parlant, il est injuste de se sentir coupable sans avoir rien fait de spécifique. Tout comme il est injuste de se sentir libre de toute culpabilité si on a effectivement été coupable de quelque chose. Vous voyez pourquoi elle dit ça? Parce qu'on pourrait avoir la tendance, on va se sentir coupable de tout. On a eu cette tendance par moment, je me souviens d'un journaliste qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le sanglot de l'homme blanc » pour dire que voilà, après la décolonisation, tout d'un coup, l'Occident se sentait responsable de tous les maux. Combien ça devenait une sorte d'attitude, de fausse responsabilité pour tous les maux. Elle continue, « J'ai toujours considéré comme la quintessence de la confusion morale le fait que pendant la période d'après-guerre en Allemagne, ceux qui étaient à titre personnel complètement innocents aient affirmé les uns aux autres et au monde en général l'ampleur de leur culpabilité qu'ils ressentaient. » Alors que très peu parmi les criminels étaient prêts à admettre même le moindre léger remords. Elle dit « L'admission spontanée de cette responsabilité collective a eu pour résultat le blanchiment très efficace, quoique inattendu, de ceux qui avaient fait quelque chose. Quand tous sont coupables, personne ne l'est. » Vous voyez le fait. Elle dit qu'en noyant cette culpabilité, en se sentant coupable lorsque les personnes qui n'avaient rien fait, eh bien les réels coupables, eux, se sont sentis blanchis dans cette histoire-là. Voilà pourquoi on ne pourrait pas croire que plus on se sent responsable de tous les maux, plus on est sage et plus on est vertueux. Plus complexe que ceci. Et Rousseau évoque ceci aussi de manière magnifique. Il dit « Nous étions faits pour être des hommes et les lois de la société nous ont replongés dans l'enfance. » À nouveau, combien les systèmes d'obéissance, dans le fond, occultent la responsabilité. Il n'y a pas de choix à faire, il suffit d'obéir. Et on voit ceci dans le rapport en général. À nouveau, il ne s'agit pas de faire le procès des religions, c'est un questionnement. Et on trouvera dans toutes les religions, d'ailleurs, des penseurs d'une grande profondeur qui se sont rendus compte de ces dangers et qui se sont exprimés à ce sujet de manière très, très claire. Dans les religions, il peut y avoir un rapport de Dieu à ses créatures qui demandent l'adoration. Ou alors on sent aussi un rapport de père à ses enfants qui demandent l'obéissance. Et tout le langage, il n'est pas à chercher loin pour trouver ce langage d'adoration ou d'obéissance, qui à nouveau n'est pas un langage de responsabilisation. Donc il est clair que le bouddhisme ne s'inscrit pas dans ce rapport, que le Bouddha n'a pas ce type de rapport avec ses disciples, qu'il s'inscrit plutôt comme un aîné parlant à des plus jeunes, et si vous voulez le terme Theravada veut dire les anciens, donc c'est bien la responsabilité ou la guidance des aînés, et non pas ni d'un dieu ni d'un père. Et comme je le dis, ceci apparaît très tôt dans la tradition bouddhique. Un des plus anciens sutras, qui s'appelle le Kalama Sutra, évoque ceci, des villageois sont confus, ils habitent sur sur une voie commerciale, un peu au sud du Népal. Et ils se plaignent parce qu'il y a trop de personnes qui passent dans leur village ou leur petite ville, tant de maîtres spirituels. L'Inde, à l'époque du Bouddha, il y avait beaucoup de chercheurs spirituels. Donc, ils passaient dans cette petite ville, tous venaient prêcher, étant convaincus qu'ils avaient la vérité. Et les villageois disent, nous, on ne sait plus à quel saint se vouer. On ne sait plus qui entendre. Ils ont tous l'air tellement convaincus, ils sont tous tellement convaincants, ils sont intelligents, certainement mieux éduqués que ces villageois. Donc ils ne savent pas du tout, ils sont dans le doute, ils ne savent pas à qui s'en remettre. Et alors un jour le Bouddha s'arrête dans cette petite ville, donc à l'orée de la ville on imagine, et puis les villageois vont dire, mais tiens voilà un maître de grande réputation, on va aller lui demander ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il pense de cette histoire, parce qu'on a besoin d'un certain éclaircissement, on ne sait pas vraiment à qui faire confiance. Et le Bouddha répond de manière extrêmement moderne, il dit que on ne peut pas suivre un maître ou un enseignement ou une doctrine de par la réputation du maître, ni à cause de son charisme, ni parce que cette personne se base sur les textes sacrés, ni en disant ceci est notre maître bien-aimé. Donc tous les critères qu'on pourrait avoir d'autorité, le Bouddha dit on ne peut pas se baser là-dessus. Il faut par soi-même éprouver, faire l'expérience de ce qui a été dit, l'évaluer, et seulement à ce moment-là, si ceci a du sens, alors on peut s'engager. Oui, il remet les villageois à leur propre responsabilité. Il ne leur dit pas, écoutez, moi je vais vous dire, vous suivez mon enseignement, et puis vous n'aurez pas de problème, j'ai la vérité. Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Il les renvoie à leur responsabilité, évaluez, réfléchissez, éprouvez par vous-même, et à ce moment-là, vous pourrez choisir. Donc il dit des choses très, très précises dans ce sutra. On ne peut pas dire parce qu'il se base sur des textes sacrés, donc il faisait sûrement appel au Veda dans ce sens-là. Mais on est obligé d'admettre que, même si les sutras du Bouddha n'avaient pas encore paru, on est obligé d'admettre que ceci s'applique aussi à cela. On ne peut pas simplement dire, voilà, ça c'est une autorité, c'est la vérité, parce que ça se trouve dans ce texte, sans examen, sans approfondissement. Mais évidemment, ceci demande beaucoup de maturité. C'est difficile d'évaluer. C'est tellement plus simple si quelqu'un dit, voilà, moi j'ai la réponse pour vous, vous asseyez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est quand même plus simple. Mais si chaque fois il faut évaluer, trouver la solution. Il y a un texte de Dostoïevski qui exprime ceci, tiens, des frères Karamazov, qui est assez remarquable. Je vais vous raconter cette histoire. Dans les frères Karamazov, Dostoïevski fait raconter à un des frères cette histoire du retour du Christ. Il ne parle pas du retour du Christ à la fin des temps, mais il parle du retour du Christ qui arriverait au XVIe siècle à Séville. Et tout d'un coup, le Christ apparaît à Séville au XVIe siècle, à une période difficile, à une période de l'Inquisition. On dit le jour où le grand inquisiteur avait fait brûler 100 hérétiques sur la place publique, donc des temps difficiles. Et lorsque le Christ apparaît, tout le monde le reconnaît immédiatement. Et tout le monde est fasciné, les gens viennent apporter des fleurs, les gens lui font les louanges. On le reconnaît, on le respecte. Et alors que le Christ est en train de traverser la grande place à Séville, le grand inquisiteur, justement, apparaît. Et il le reconnaît tout de suite. Et il le fait arrêter, il le fait mettre au fer, il le fait mettre dans la prison. Et le soir, il va voir le Christ pour le questionner. Il dit, pourquoi t'es venu nous déranger ? Ça fait 1500 ans qu'on répare tes erreurs. Et tu viens nous déranger ? Il dit, parce que tu disais que tu voulais un amour qui soit vraiment libre, parce que tu n'as pas utilisé de magie pour attirer les gens. Tu les as laissés devant une liberté. C'est ce qui est intéressant ici, hein, qu'il est supposé que, ici, Dostoïevski donne au Christ et au christianisme cette valeur de liberté, et non pas à l'Église représentée par l'inquisiteur. Donc, tu nous as dérangés, on a dû réparer ton erreur. C'est-à-dire qu'il dit, les gens ne veulent pas la liberté, ils aiment mieux la sécurité du troupeau que la liberté. toi tu leur offres la liberté, l'Église a dû récupérer ceci. Il faisait le pain et nous leur donnions. Il faisait le pain qu'il donnait à l'Église et nous leur donnions par générosité. Vous voyez ce rapport de dépendance. Et alors le Christ doit être brûlé, du point de vue de l'inquisiteur, ce qui est quand même assez fantastique. Et Dostoïevski, dans ce petit texte magnifique, il laisse le Christ constamment silencieux, qui lui donne un pouvoir extraordinaire. Évidemment, il ne réagit pas, ne répond pas. Le grand inquisiteur reste avec sa parole, à lui. Ces paroles qui sont d'autant plus fortes, si vous voulez, parlantes, qu'il n'y a pas d'opposition. Ceci illustre aussi des aspects dans toutes les religions, où tout d'un coup on a des inquisiteurs qui prétendent mieux connaître la religion que le fondateur. Ça, constamment on retrouve ceci. Donc ce qui est intéressant ici, c'est ce refus de la liberté, parce que la liberté implique une responsabilité. Donc cette liberté qui donne la possibilité de choisir, faut voir sur quoi elle peut s'appuyer, dans le fond. Qu'est-ce qui va motiver ce choix, si on peut le motiver librement? Quand, dans le fond, on essaie de le raisonner, le rationaliser, on va le motiver en termes de gain. On pourrait dire que, d'une certaine manière, la loi du karma est cette motivation en termes de gain. Faites le bon choix, vous aurez des conséquences agréables. Faites le mauvais choix, vous aurez des conséquences négatives. Donc ici aussi, la valeur est toute donnée. Alors ce n'est pas une obligation, le terme n'est pas comme les commandements, tu ne tueras point. C'est exprimé différemment. Si tu n'as pas envie d'être tué, ben ne tue pas. Mais on est encore ici dans une sorte de contrainte qui fait que le choix est tout fait selon son bénéfice personnel. Qu'est-ce qu'on veut comme bénéfice? Si je suis malin, alors je fais le bon choix parce que je m'en tire mieux. On peut dire que ici on a un sens de liberté, de responsabilité qui est quand même assez limité, assez pauvre. J'ai une attitude mercantile. Un bon homme d'affaires ou une bonne femme d'affaires, faisant les bons choix. Mais évidemment, les mystiques se sont rendus compte de ceci. Ici, je vais prendre des penseurs dans les religions monothéistes, pour montrer qu'ils sont tout à fait conscients de ceci. Une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rabia, qui était une mystique de l'islam du 8e siècle à Bagdad. Comme je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mystiques dans l'islam, d'ailleurs dans le christianisme pas immensément non plus, voilà, moi je l'aime bien, Rabia. Elle se promenait à Bagdad, c'était une ancienne esclave d'ailleurs qui avait été libérée, elle se promenait à Bagdad avec un flambeau à la main et un seau d'eau. En plein jour, elle me demandait, mais enfin Rabia, qu'est-ce que tu fais avec ce seau d'eau et cette torche? Elle disait, moi je veux brûler le ciel et je veux éteindre les enfers pour que les gens arrêtent de prier Dieu pour éviter les enfers et pour aller au ciel. Maître Eckhart, dans un très beau sermon, s'appelle « Chasser les marchands du temple ». Donc on connaît un peu cette histoire où il est dit dans l'abîme que Jésus arrive dans le temple et chasse les marchands en leur disant « Hors de la maison de mon père ». Et Maître Eckhart, comme à son habitude, prend cette anecdote et lui donne un sens beaucoup plus profond. Il dit « Mais les gens ici, les marchands, c'est évidemment pas les gens qui viennent vendre des petites choses. Il dit, les marchands sont les personnes respectueuses qui viennent prier Dieu honnêtement, les gens sincères, ça ce sont les marchands, mais qui prient Dieu afin de lui demander quelque chose, afin d'en obtenir quelque chose, afin d'obtenir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il dit ça, ce sont des marchands. Il donne quelque chose, il veut recevoir quelque chose en échange. Il faut prier sans pourquoi, comme dira cette magnifique mystique chrétienne Marguerite Porrette. Il dit, il faut prier sans pourquoi. Vous voyez, on enlève cette justification qui viendrait orienter les choix, dans le fond. Alors, vous voyez, soit on a un choix qui est déterminé parce qu'on dit « tu fais ceci, tu ne feras pas cela », soit on a un choix déterminé en disant « si tu veux gagner la loterie, tu fais comme ceci ou comme cela », mais on évite les problèmes dans tout ça, on évite les problèmes plus profonds de la responsabilité, de la liberté. Ici, je voudrais citer une phrase de Sartre dans son texte. L'existentialisme est un humanisme parce qu'il donne une sorte d'ouverture à la responsabilité extraordinaire. Il dit « Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous pourrions le supposer, car elle engage l'humanité tout entière. Je veux dire que chaque choix que l'on fait, ce n'est pas un choix qui nous engage nous uniquement, il engage l'humanité tout entière. Et qu'on doit pouvoir faire ce choix en ayant conscience que ça engage l'humanité tout entière. Alors c'est assez beau, c'est assez magnifique, mais dans le fond, il ne le justifie pas. Pourquoi ? Dans le bouddhisme, quelque chose va venir enrichir ou dépasser cette notion de karma, cette notion utilitaire. C'est la notion de compassion, de bienveillance, ou de bodhicitta, comme on l'appelle dans le grand véhicule, qui change complètement la donnée. Et là, on se rend compte, dans l'évolution du bouddhisme, qu'il y a une réflexion qui se fait constamment, comme dans toutes les traditions d'ailleurs, et qui affine, qui approfondit certaines données. Et là, tout d'un coup, va voir apparaître une notion qui peut être liée à la responsabilité, plus que celle du karma, qui est liée à une sorte d'avantage personnel. Et dans ce magnifique texte de Shantideva, l'engagement dans la voie des bodhisattvas, ou quelle que soit la manière dont on traduise le titre, une réflexion très profonde qui va amener un certain sens de responsabilité. Il dit « Ce qui est la douleur pour moi, elle l'est pour autrui. » Je crois que c'est la traduction de la Vallée Poussin qui est magnifique. « Ce qui est la douleur pour moi, elle est pour autrui. » Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est très très fort. De se rendre compte dans un conflit avec une autre personne ou dans une compétition où dans le fond il s'agit d'éviter de la souffrance. On prend un exemple très simple. Si je suis fatigué, je monte dans le bus ou dans le tram et puis il reste une place libre, ben, ce qui est la douleur pour moi l'est pour autrui, et il y a une autre personne aussi fatiguée qui a envie de s'asseoir, elle n'a pas envie de me piquer la place juste pour m'embêter. Elle dit « Ouais, il y a Charles qui est là, qui reste debout ?» Non, cette personne, elle a envie d'éviter la souffrance. Ce qui est la douleur pour moi l'est pour autrui, c'est exactement la même chose. Quand on place ceci au niveau de cette nature humaine et cette similitude dans le fait qu'on éprouve la souffrance de la même manière ou la douleur. Donc on n'est plus dans une sorte de conflit personnel, on est simplement dans le rapport à cette nature humaine qui est que nous n'aimons pas la souffrance. Il dit « ce qu'est le bonheur pour moi, il l'est pour autrui ». De la même manière, quelque chose d'agréable à obtenir, et si l'autre personne le veut aussi en même temps que moi, c'est aussi parce qu'elle cherche le bonheur et non pas parce qu'elle veut me nuire. Elle est exactement la même chose. Dans ce rapport au bonheur, on peut sentir cette similitude. La personne était exactement la même chose que moi dans son rapport au bonheur. Même si on a des notions un peu différentes, Dieu merci, où se situe le bonheur. Mais le rapport au bonheur lui-même est le même. Il dit « C'est pourquoi je dois protéger autrui de la douleur comme je le fais pour moi-même. » Puisque nous sommes exactement la même chose, je dois protéger autrui comme je le fais pour moi-même. Arrive à cette constatation. Et je dois l'établir dans le bonheur comme je le fais pour moi-même. Ici, là, ce n'est pas pour mon propre bénéfice, c'est simplement cette responsabilité surgit du fait que nous sommes totalement similaires. Et comme Shantideva est très habile pour répondre aux objections qui pourraient surgir, elle continue, elle dit « Si moi-même et autrui ne voulons pas la moindre douleur, qu'y a-t-il de si spécial en moi ?» pour que je ne me préoccupe que de moi-même. Il dit, mais enfin, on va dire, non, mais attention, moi, quand même, moi, d'abord, il répond à plein d'objections, moi, je ne ressens pas ce que l'autre ressent, etc. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial en moi ? Mais il pose la question. Il s'agit de réfléchir, de trouver, est-ce que je vais trouver quelque chose de spécial en moi qui ferait que ceci justifierait ? C'est une question très troublante. Quand on se pose la question, qu'est-ce qui justifie le fait que je prendrai soin de moi et pas d'autrui ? Quoi qu'on essaie de trouver, sans sauter sur la première réponse, c'est parce que c'est moi, qui évidemment ne convaincra qu'un convaincu. Alors on comprend bien ce que Shantideva dit ici, on peut y être sensible, c'est quelque chose de très, très inspirant, très enrichissant. Mais il est quand même difficile, même si on revient à la phrase de Sartre, de trouver une justification, une raison qui nous engagerait dans la compassion. Même ce sens de responsabilité dont parlait Sartre, dans le fond, qu'est-ce qu'il justifie? Si on veut trouver une raison, une justification, mais quoi? On a des éléments de réflexion. Ce qu'on peut faire, ce que Shantideva fait d'ailleurs admirablement dans son texte, c'est voir tout ce qui nous empêche. Toutes les choses quand on s'accroche à soi-même, l'égoïsme, la jalousie, etc., qui entravent, dans le fond, qui viennent voiler cette question. Quand on est motivé par l'égoïsme, la crainte, la jalousie, l'orgueil, c'est pas un choix de liberté. Donc on n'a pas vraiment la question de la compassion ne surgit pas dans ce cas-là, elle est voilée. Mais si on imagine ceci étant éliminé, en tout cas momentanément, alors qu'est-ce qui justifie la compassion? Pourquoi agir de manière compassionnée? Si on rencontre un mendiant dans la rue qui nous demande quelque chose, d'abord, qu'est-ce qui nous autoriserait à dire non? On enlève évidemment le cas de justification, parce que c'est un drogué, un alcoolique, etc. Toutes ces justifications qui en sont sans en être, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Mais dans le fond, quand une personne me sollicite, est en face de moi, qu'est-ce qui va faire que je pourrais dire non? Qui me donne dans le fond cette liberté? Je peux dire non, je n'aide pas cette personne. Ou qu'est-ce qui me permet de dire oui, j'aide cette personne? On essaye de trouver quelque chose qui pourrait justifier la compassion, l'intruisme. Nous avons vu ce qui l'empêche, ça c'est clair, égoïsme, etc. Et ça, il ne s'agit pas de répondre à ceci. Et d'une certaine manière, rien ne justifie la compassion. C'est un acte totalement libre. Si on essaie de trouver quelque chose de rationnel pour répondre à la compassion, une sorte de justification, une sorte de raison, alors c'est comme si c'est la raison qui gouvernait tout. Voilà, on est devant quelque chose d'autre. C'est justement quelque chose de totalement libre et gratuit. Il n'y a pas de raison. Donc ça nous met constamment devant ce choix irrationnel. Nietzsche disait « Je me méfierais d'une personne qui a besoin d'une bonne raison pour agir vertueusement. » On est mis ici devant un espace de totale liberté, on n'a même pas une raison pour nous aider. Non mais c'est normal de pratiquer la compassion parce qu'on n'a même pas l'aide de ceci. On est devant cette totale liberté. Donc il y a là quelque chose d'assez extraordinaire. Aussi cette tendance à vouloir trouver une justification. Et peut-être de s'ouvrir la possibilité, il n'y a pas de justification, c'est irrationnel, mais il n'y a pas de raison que tout soit ramenable à quelque chose de rationnel, de raisonnable. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, on obéirait au dictat de la raison. On n'a même pas ceci, un acte totalement libre. Et la plupart du temps, s'il n'y a pas de compassion, c'est parce que le choix est entravé par l'égoïsme, par la jalousie, par la crainte ou par la confusion, parce qu'on trouve des justifications fausses quant à peut-être que ceci pourrait nuire à l'autre. La responsabilité face à son destin,